aujourd'hui une fête des saints Pierre et Paul, dans le sens que c'est la fête des dédicaces de leur basilique à Rome. Vous direz, c'est sans intérêt, les basiliques à Rome. Pourquoi fêter ça? C'est que ce sont d'abord deux très belles basiliques, mais on vénère en même temps les tombeaux où sont ensevelis Saint-Pierre et Saint-Paul. Et il faut bien se souvenir que Saint-Pierre et Saint-Paul, ce sont, après Jésus-Christ, on pourrait dire les deux piliers de cette immense Église qu'est l'Église catholique, et je dirais même de tout le christianisme. Il faut bien savoir aussi que la basilique de Saint-Pierre à Rome, que vous avez vue en bonne partie, beaucoup de gens parmi vous, je suis sûr, ont vu la basilique Saint-Pierre, à tout le moins à la télévision évidemment, mais quand on l'a vue en personne, puis qu'on l'a vue et revue et revue et revue, et tout à coup, elle finit par pénétrer notre cœur malgré les excès de grandeur. C'est la plus grande basilique au monde. C'est immense, c'est d'une splendeur qui nous écrase un peu au début, mais qui petit à petit nous permet de l'aimer. Je peux dire que la première fois vraiment que je l'ai vue, c'était à la messe de Pâques de l'année sainte en 1950, avec le pape Pidou sur la sedia gestatoria, la splendeur de la cour qu'il y avait à l'époque, les soldats, la garde suisse, il y avait toutes sortes de choses, la garde noble, toutes sortes de choses qui sont disparues, heureusement. Car c'était le dernier grand spectacle, si on peut dire, ou à peu près, de la Renaissance qui encore imprégnait cette basilique, qui imprégnait les cérémonies. Aujourd'hui, ça s'est heureusement simplifié, ça demeure encore grandiose, mais ça se déroule tout ça sous la coupole de Saint-Pierre. Cette coupole qui apparaît la première aux yeux du pèlerin qui est en route vers la ville éternelle. À Rome, on la voit de loin. Et ça symbolise pour tous les catholiques, on peut dire, l'unité de l'Église. Notre cœur bat de joie d'appartenir à cette Église qui est une malgré toutes les difficultés, toutes les dissensions. Et nous sommes, je vous le rappelle encore une fois, nous sommes 20 ou 21 Églises différentes. Il y en a qui sont toutes petites, qui sont unies à l'intérieur de cette grande Église, qui n'est pas que latine. Elle est aussi copte, elle est aussi orthodoxe dans ses rites, elle est arménienne dans ses rites, elle est de toutes ces églises dont des portions ont cru bon de s'unir à la grande Église catholique pour en préfigurer, si on peut dire, l'unité future, l'unité à venir. Et sous cette grande coupole qui est parfaite d'harmonie, c'est une beauté, les couleurs, les proportions, eh bien c'est là que repose, sous cette coupole, très au fond de la basilique, le premier vicaire du Christ sur la terre, Saint-Pierre. À sa gloire, puis à celle aussi de Jésus, évidemment son maître, a été élevé cette basilique. Je vous le répète, c'est la plus grande de l'univers, elle a été commencée par Bramante en 1506. Elle doit sa coupole au génie de Michel-Ange, qui y a travaillé de 1546 à 1564. Puis le Bernin, le fameux Bernin, c'est lui qui a dressé le grand baldaquin de l'autel avec ses colonnes torses, comme on les voit ici à la cathédrale de Montréal. On a un tout petit baldaquin du Bernin, une copie évidemment diminuée au cinquième, si on peut dire. Il a élevé ça en 1623. Et puis le Bernin a continué jusqu'à sa mort en 1680, donc près de 60 ans plus tard, la décoration intérieure. C'était lui encore qui a dessiné cette fameuse place Saint-Pierre avec sa colonnade immense. C'était fait en une période d'à peu près 10 ans, là, de 1656 à 1667. C'est une des plus belles places au monde. Et Urbain VIII avait, dès le 18 novembre 1626, c'est le il y a 371 ans aujourd'hui, il avait procédé à la consécration de cette basilique. Il ne faut pas s'inquiéter des critiques acerbes. Il ne faut pas non plus s'en faire avec les enthousiasmes irréfléchis qui se heurtent d'un côté et de l'autre dans les groupes de pèlerins. Il y en a qui détestent cette basilique parce qu'elle est trop riche, d'autres l'aiment aveuglément, en oubliant un peu trop l'Évangile. Et puis, j'ai pas l'intention de vous faire toute une description de la basilique, on trouve ça dans des livres. Mais la meilleure chose, c'est d'aller visiter ou de regarder un bon film à ce sujet. Ça existe, hein? Et je vous rappelle qu'il y a des richesses historiques et religieuses absolument phénoménales là-dedans, qui concernent tout d'abord Saint-Pierre. C'est incomparable. Pour visiter Saint-Pierre, ça m'a pris du temps avant de découvrir comment. J'y suis allé quoi, 20 fois, 30 fois? C'est en faisant une visite toute simple, toute calme, très attentive pour aller y prier. On peut aller prier dans une grande chapelle du Très-Saint-Sacrement, qui est à droite, qui est comme une église. Ou bien on va jusqu'au fond, sous la, ce qu'on appelle la chaire de Saint-Pierre, le tronc de Saint-Pierre qui date de quelques siècles plus tard probablement, mais qui est inséré dans une immense sculpture. Et puis, elle est sous un cet esprit en haut, un vitrail. Et c'est là qu'il y a un autel où on peut assister à la messe, souvent de très belles messes, simples, sobres, célébrées par des gens de passage au besoin. Le centre de la basilique, c'est évidemment le tombeau de Saint-Pierre. Aujourd'hui, ce grand baldaquin baroque du Bernin, qui ressemble à celui de notre cathédrale de Montréal, attire tous les regards. Autrefois, l'abside était surélevée et orné de mosaïques, ça jouait le même rôle. Parce que l'ancienne basilique, qui pendant plus d'un millénaire a accueilli les pèlerins, mais c'était beaucoup moins vaste que celle qui est là aujourd'hui. Celle se composait de 5 nefs quand même, d'un transept, une abside, un hémicycle. C'était un plan fort simple, qui ne doit pas laisser croire que Constantin, qui l'avait construite et dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, avait voulu économiser. Non, non. L'emplacement choisi avait nécessité des travaux et des dépenses énormes. Il y avait une pente assez douce d'est en ouest, mais ça présentait une dénivellation assez brusque, là, de 11 mètres. C'est beaucoup, hein? C'est quelque chose comme 35, 36, 37 pieds du nord au sud. Ça a dû être acheté par l'établissement d'une terrasse soutenue par des murs qui atteignent jusqu'à 2 mètres ou presque 3 mètres d'épaisseur. Il faut dire aussi que le sol était argileux, hein. Il a fallu, malgré un système de drainage, entourer le pied des murailles de toutes sortes de protections. Puis il y avait une vaste nécropole aussi, une espèce de cimetière qui s'était développé puis enrichi depuis 2 siècles à ce moment-là. Ça a dû être exproprié, puis ça a dû être enseveli sous 40 000 mètres cubes de terre. C'était des travaux immenses, on n'a pas idée, c'était fait il y a très longtemps. Il n'y avait là rien d'impossible aux entrepreneurs romains, comme vous voyez, sous Constantin, l'empereur Constantin. Mais il aurait été si simple d'établir la basilique un peu plus loin. Que l'on doit admettre, il me semble qu'il était impossible d'aller choisir un autre emplacement. Pourquoi? Évidemment, c'est qu'on ne voulait pas déplacer la tombe de Saint-Pierre, ce monument funéraire où on a trouvé récemment des graffitis qui indiquent bien que c'est Saint-Pierre. Devant l'hôtel actuel, qui date de 1597, se trouve une cavité où il y a la statue du pape Pie VI qui est agenouillée, qui fait face à une grille en métal doré. Elle date de très longtemps, cette grille. Elle date, mon Dieu, du XIIIe siècle. Elle ferme la niche où sont déposés, savez-vous, les palliums. Vous savez, ces machins de laine qui sont destinés aux archevêques. C'est des espèces de colliers de laine, la laine des agneaux de Pâques, que porte le cardinal archevêque de Montréal, en porte un. Puis les parois sont décorées de mosaïques et le fond est constitué par une plaque de bronze qui est percée d'un orifice qui a toujours existé. Et c'est par là qu'au Moyen-Âge, savez-vous, on descendait un encensoir ou des linges qu'on emportait ensuite comme des reliques. Et on sait depuis les fouilles, il y a eu des grandes fouilles faites par Pie XII de 1940 à 1949, pendant la guerre et après la guerre, que à l'orifice, là, ça correspond des trous percés dans les dalles horizontales que l'on rencontre successivement avant d'arriver au fond du puits. Et puis, on sait que dès la fin du IIe siècle, existait un monument en l'honneur de Saint-Pierre, dont les vestiges subsistent encore sous les revêtements modernes. C'est quand même extraordinaire de penser qu'on a la tombe de Saint-Pierre. Et les fouilles ont dissipé toutes sortes d'illusions. On n'a pas trouvé de traces des tombes des premiers papes que l'on pensait avoir été enterrés auprès de Saint-Pierre. Mais on a constaté que, contrairement à ce que l'on croyait, la tombe du premier pape a été visitée à plusieurs reprises depuis Constantin. Les papes ont cru pouvoir sauver une partie de ce qu'il y avait là en le divisant. Hein. Depuis plusieurs siècles, la tête de Saint-Pierre, savez-vous, est vénérée dans la première église de notre église, qui est l'église du Latran. Saint-Jean de Latran, dédié à Saint-Jean-Baptiste. Tandis que des voleurs ont forcé souvent la tombe de Saint-Pierre, au moins peut-être pas pour ravir les ossements, mais pour s'approprier des métaux précieux qui pouvaient recouvrir la tombe. La forme exacte de la tombe primitive de Saint-Pierre est encore indéterminée. L'espace libre entre les tombes les plus proches, puis espèce de mur qui mesure 1,20 m, là, à un peu plus d'un demi-mètre, c'est insuffisant pour déposer normalement le corps d'un homme. Mais dans quel état le corps de Saint-Pierre supplicié qui a été crucifié la tête en bas a-t-il été livré à ceux qui l'ont enterré? On ne sait pas. Dans un message retentissant dont je me souviens bien, le 23 décembre 1950, le pape Pie XII présentait lui-même les conclusions des travaux entrepris sur son ordre et on attendait ce résultat des travaux qui avaient duré durant les années 40. Il avait dit « Le résultat des explorations a été très riche et très important ». C'est ce que le pape Pie XII disait. Mais la question essentielle est la suivante. A-t-on vraiment retrouvé la tombe de Saint-Pierre? Il dit « À une telle demande, la conclusion finale des travaux et des études répond » très clairement par l'affirmative, oui, la tombe du prince des apôtres a été retrouvée. C'était fantastique. Nous étions contents de penser que le successeur de Saint-Pierre, le pape Pie XII, et aujourd'hui le pape Jean-Paul II, célèbre la messe sur le maître-autel, là, juste au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. Vous direz que ça n'a pas d'importance. Oui, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de souvenirs et d'histoires. Nous avons besoin de ces détails qui enchantent notre esprit et qui nous rappellent l'unité et la continuité de l'Église dans le temps, dans l'espace et dans des détails précis. Et le pape posait une seconde question qui était subordonnée à la première. Et ça regarde les reliques du saint. Il disait, est-ce qu'on les a retrouvées? Alors au bord du sépulcre, on a retrouvé des restes d'ossements humains. Ont-ils appartenu, disait-il, à Saint-Pierre? Il n'est pas possible de le prouver avec certitude, et cela laisse cependant intacte la réalité historique de la tombe. Et la gigantesque coupole, je reviens à cette coupole, qui développe sa courbe, là, exactement sur le sépulcre du premier évêque de Rome, du premier pape. Sépulcre, au début bien modeste, hein, mais sur lequel on peut dire la vénération des chrétiens, des catholiques, tout le monde à peu près était catholique pendant des siècles et des siècles, mais on a élevé petit à petit des basiliques, et finalement, celle qui a été élevée, malheureusement, après la séparation, eh bien, c'est une merveilleuse succession de travaux. Hein. C'est le plus grand temple de la chrétienté. Et il n'y a rien comme d'y aller, d'y assister là à des cérémonies de béatification, de canonisation, ou des grandes cérémonies liturgiques, pour ressentir jusqu'au fond de soi-même une joie que j'ai toujours éprouvé là-bas. Peut-être suis-je trop sentimental, mais je ne le crois pas. Je suis attaché à cette grande église des saints, à cette continuité, comme je vous ai dit, dans le temps et l'espace, sur la conduite des papes, qu'ils soient bons ou moins bons, peu m'importe. C'est cette certitude et cette ferveur qui nous habite quand nous sommes là. Si c'est la fête de la dédicace de la basilique de Saint-Pierre de Rome, c'est aussi la fête, aujourd'hui, de la dédicace de la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Comme je vous ai dit au début de l'émission, je vous en dis que quelques mots, parce que c'est une basilique qui a malheureusement été détruite. Elle a brûlé le 15 juillet 1823, mais elle a été reconstruite. On sent, quand on la voit, qu'il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas. C'est le pape Pie IX qui a voulu que les dédicaces des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul soient célébrées ensemble le 18 novembre, puisque la basilique Saint-Pierre a été consacrée un 18 novembre. Mais il avait attendu jusqu'au 10 décembre pour consacrer le nouveau Saint-Paul hors les murs. afin d'être assisté par les cardinaux, les évêques, puis toute la foule des fidèles qui étaient venus à Rome pour la définition du fameux dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé le 8 décembre 1854. Comme je vous ai dit, c'était le 15 juillet 1823 qu'un incendie ravagit cette magnifique basilique du 4e siècle. Imaginez quel désastre, hein? Du 4e siècle. Elle avait 1500 ans. Puis on avait cru nécessaire de la rebâtir plus belle qu'avant. Mais quand même, je dois avouer que les marbres, un peu trop luisants peut-être, la perfection technique de la nouvelle construction, ça ne me console pas, moi, de la disparition de tout ce que le feu a épargné. Il reste encore des marques de ce que c'était autrefois. Ça doit être tellement beau. Il y a la série des médaillons des papes qui rappelle toujours la continuité de l'Église, mais c'est banal. Ça fait regretter les vieilles peintures qui avaient été commencées sur les instructions de Saint Léon le Grand et qui sont disparues. La remise à neuf des vieilles mosaïques, ça compense pas l'affadissement dont elles ont été victimes. C'est pas facile de refaire des belles mosaïques comme celles d'autrefois, hein. Puis les sondages qui ont été nécessités pour mettre de nouvelles fondations, ça a mis à jour des témoins archéologiques intéressants. Mais aucun spécialiste n'a été appelé pour les examiner. Ils ne furent connus que bien plus tard par des notes prises par un architecte italien. En attendant de véritables fouilles, l'histoire primitive de la basilique Saint-Paul reste encore assez hypothétique malgré d'autres travaux qui ont été faits il n'y a pas si longtemps. Les résultats obtenus à Saint-Pierre, dont je vous ai parlé, ont éclairé un peu ceux qu'on pourrait trouver encore à Saint-Paul. Comme Saint-Pierre, eh bien Saint-Paul a été enterré probablement auprès du lieu de son supplice dans un cimetière ouvert à tout le monde. Et alors qu'au Vatican, ben, les plus anciennes sépultures ne sont peut-être que de la fin du 1er siècle, mais sur la voie en dehors de Rome, sur la voie d'Ostie, O-S-T-I-E, la ville d'Ostie, c'est là qu'est la basilique Saint-Paul, ben, il en est de plus anciennes. Et puis, on trouve toutes sortes de restes intéressants. On peut voir aujourd'hui le columbarium en plein milieu de la voie d'Ostie, où on sait qu'il y a eu, il y en a un autre tout près de la confession de Saint-Paul aussi. De toute façon, l'actuelle basilique a gardé le plan de l'ancienne. Elle demeure intéressante. C'est immense, immense, immense. Hein? Il faut voir ça quand on va à Rome. On peut encore voir sous l'autel la plaque de marbre qui recouvre le tombeau de Saint-Paul, qui a été décapité, lui, et non pas crucifié. Elle porte ces simples mots, Paul, apôtre, martyr. Elle a été percée dès l'origine d'un trou rond par lequel, comme à Saint-Pierre, on descendait un encensoir et des linges. Et par la suite, on lui a fait deux autres trous carrés. On admet depuis longtemps que la tombe de Saint-Paul a été ouverte à diverses reprises et même violée, comme celle de Saint-Pierre. Il y a eu les barbares et les invasions barbares et des guerres. Elle est située à une distance relativement grande de la ville, mais ça se fait bien pour s'y rendre. Et elle est en dehors du centre des affaires. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'activités autour de la basilique Saint-Paul. C'est une histoire beaucoup moins mouvementée finalement que Saint-Pierre, hein. Elle a été restaurée d'abord par Saint Léon au 5e siècle, puis dès le temps de Grégoire II au 8e siècle, le service y est assuré par des moines bénédictins qui sont toujours là. Ils sont peu nombreux les bénédictins à Saint-Paul-hors-les-Murs, mais c'est l'église finalement d'un monastère bénédictin. C'est la seule survivance, on pourrait dire, de ce qu'on appelle les monastères basilicaux du Moyen-Âge. Pour ce qui est de Saint-Pierre, il faut bien dire que si l'église fête aujourd'hui Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble pour les basiliques le 18 novembre, elle les fête aussi le 29 juin ensemble. Elle fête toujours Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble. On dirait que l'Église n'ose pas les séparer. Ils sont comme des frères siamois, d'une certaine façon, mais bien différents. Hein? L'Église les a toujours unis. Elle veut par là affirmer qu'elle ne peut séparer ceux qui l'ont effectivement fondé dans un sens, hein, au lendemain de la résurrection du Christ, et au lendemain de la Pentecôte, évidemment, hein, quand le Saint-Esprit s'est emparé de l'Église. Leurs fêtes, à eux deux, qui sont pourtant bien différents, je vous l'ai dit, ça symbolise toute la mission de la foi de l'Église. Hein. C'est la foi que Jésus a voulu, en leur confiant, puis en nous confiant à nous aussi, de planter l'Église sur notre planète. Partout. Dans tous les pays. Où l'on nous accepte, évidemment. On peut pas aller facilement dans bien des pays musulmans. Dommage. On peut pas aller du tout en Arabie Saoudite. On peut même pas rentrer avec une croix, un missel, un bréviaire, une vie de saint, un chapelet, quoi que ce soit là-bas en Arabie Saoudite. Même si vous allez y travailler pendant 5 ans. Mais eux, les Arabes, ou les musulmans en général, ils sont plus que bienvenus dans nos pays. Nous les accueillons. Ce sont nos frères croyants. Mais c'est curieux, n'est-ce pas? Je me demande si nos frères musulmans d'ici vont commencer à protester contre ces choses qui sont injustes. Injustes, nous, on n'ose pas trop protester. Mais enfin. Bon, Simon Pierre, c'était son nom, c'est Simon. Dans l'évangile de la fête, est interrogé par Jésus. Dans la fête de Saint-Pierre le 29 juin. Mais aujourd'hui, dans l'évangile, c'est qui... Pierre marche sur les eaux, et puis Saint-Pierre le reconnaît. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Prenons aussi, j'aime encore mieux l'évangile de la fête du 29 juin. C'est pendant les vacances, je peux pas vous en parler. Eh bien, dans l'évangile de cette fête, il est interrogé par Jésus, et le Christ demande d'abord à ses disciples dans la région de Césarée de Philippe, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils ont répondu, pour les uns, Monsieur Jean-Baptiste, puis pour d'autres, Élie, puis pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Jésus, lui, il va aller plus loin. Il pousse son interrogatoire. Puis, il veut obtenir une réponse personnelle, car c'est chacun qui doit se situer par rapport à lui. Hein. Nous devons tous, chacun d'entre nous, nous poser par rapport à lui, le regarder dans les yeux. Dans les yeux, c'est ça la conversion. C'est quand on regarde son regard, que son regard nous pénètre et qu'on est transformé. Parce qu'on ne doit pas croire en Syrie comme ça simplement, « Bah, mes parents m'ont baptisé, puis je suis catholique. » Non, non. Si un groupe croit en lui, c'est que ses membres ont personnellement la foi, ils ont vu Jésus. C'est l'homme, en son cœur et en sa liberté, qui se prononce, pour ou contre lui, Jésus. Jésus dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon se sent interpellé avec sa franchise habituelle, puis répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il le dit encore. Mais Simon met Jésus à un autre niveau que l'opinion répandue qui le prend pour un prophète. Ce n'est pas qu'un prophète. Ou un grand homme. Ainsi, aujourd'hui, on s'en va répétant, « Jésus est un homme. » Comme s'il n'était que cela, mais qu'en pense Jésus, lui? Jésus est discret sur sa personne. Est-ce qu'il va accepter qu'on le situe au-delà de l'homme? N'oublions pas qu'il est très grave et blasphématoire de nommer Jésus fils de Dieu pour un juif. Hein? Quand Saint-Pierre dit des choses comme ça, c'est blasphématoire. Mais c'est la vérité. Parce que les juifs respectent le nom divin. Dieu pur esprit. Pour les juifs. Mais non, Saint-Pierre et les apôtres ont vu. Jésus approuve ce qu'ils disent, au contraire, et l'affirmation exorbitante de Simon sur sa propre divinité, il l'accepte. Il va plus loin, il prend témoin le Dieu du ciel de la véracité de la foi de Pierre, puis il lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. » Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup d'entre nous arrivent à ne plus croire à la divinité de Jésus. On affirme qu'il est un homme, un prophète. Et ça, c'est à la portée de tout le monde de dire ces choses-là. On peut dire c'est le plus grand personnage de l'histoire. C'est vrai, d'ailleurs. Ça m'est arrivé pendant quelques années de ne plus croire comme ça. Mais quand on affirme qu'il est le Fils de Dieu avec Saint-Pierre, ça, on ressent que c'est une lumière qui vient de Dieu lui-même au fond de notre cœur. C'est la parole de Dieu, elle agit en vous, qui croyez. C'est Saint Paul qui dit ça. C'est la parole de Dieu, et elle agit en vous, qui croyez. Et d'elle-même, comme ajoute Saint Paul, elle n'est pas montée au cœur de l'homme. C'est pas d'elle-même, non. La révélation lève un voile sur le mystère de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus va s'arrêter là avec Saint-Pierre, sur la foi de Pierre au Fils de Dieu qu'il est lui-même. Il fait de Simon le roc de l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui impose un autre nom, Pierre. C'est un nom qui signifie quelque chose. Il déclare solennellement, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La puissance de l'enfer ne l'emportera pas sur elle. Alors il fait de Pierre le chef de l'Église. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pour ça qu'on lui doit au pape une obéissance respectueuse. Critique si l'on veut, mais critique respectueuse. On ne peut pas parler du pape comme du voisin. Non. Je n'accepte pas, moi, personnellement. Vous me direz que je suis papelâtre. Ça ne m'intéresse pas, les injures. Ce qui compte pour moi, c'est la foi profonde. Pierre a fait sa profession de foi dans le Christ, dans le Seigneur Jésus. Et depuis ce jour-là, dans l'Église, il ne peut pas y en avoir d'autre. Toute profession catholique sera unie à celle de Pierre, et je l'unis la mienne à celle de Pierre. Parce qu'il est le premier docteur de la foi. Il est évêque de Rome. Pierre est la pierre visible qui confesse. Celui qu'on a appelé la pierre d'angle. Vous savez ce que c'est qu'une pierre d'angle, les jeunes qui m'écoutaient peut-être? C'est en architecture, quand on fait une porte ronde en haut là. Les pierres s'appuient les unes contre les autres, puis il faut mettre une pierre dans le milieu, qui est la pierre d'angle, qui soutient toutes les autres finalement. Si toutes les autres tombent pas, c'est à cause qu'il y a une pierre d'angle. Eh bien, cette pierre d'angle est invisible à nos yeux, c'est le Christ ressuscité. Mais Saint-Pierre, lui, a déjà entrevu la gloire de Jésus lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Et aussi Saint-Pierre, c'est le signe dans l'Église de la rectitude, que je l'aime, il est droit, Saint-Pierre. C'est l'homme de la solidité de la foi, c'est l'homme de la fidélité au Christ, dans cette foi qui est révélée. C'est l'homme de la mission, de la transmission du message véritable du Seigneur. Il transmet pas n'importe quoi, il transmet le message véritable. Faut lire ses épîtres. Un message ne s'invente pas, on le reçoit. Pour le transmettre, sous peine de mission et de démission, on transmet le message parce qu'il est la source de la plus grande joie. Car le message de Jésus libère. Il rend si heureux que je suis surpris que notre cœur n'éclate pas des fois, de joie et d'amour. La foi ne suffit pas à Pierre, bien qu'elle soit première et indispensable, comme le roc à la fondation de l'Église. Mais quand Jésus apparaîtra à Pierre, après sa résurrection, la résurrection de son corps d'homme qui mange et boit et parle et écoute, il lui demandera, « M'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu ?» Par trois fois. Et c'est si beau, hein, sur la triple réponse de Pierre. Quel merveilleux saint. Il s'en remet humblement au Seigneur qui sait tout. Et le Christ va lui confier les agneaux et les brebis que nous sommes. Tous les hommes, toutes les femmes à sauver, à évangéliser, à sanctifier, dans et par l'Église, dans et par l'Église. La foi et l'amour du Seigneur Jésus sont requis du pape, du pasteur universel qui enseigne et qui guide et qui unifie dans la continuité puis la vie de la tradition. Cette tradition qu'on appelle la tradition des apôtres, la tradition apostolique. Jusqu'à la fin des temps, l'amour du Christ, il vérifie l'amour des hommes, il vérifie notre amour, hein. Est-ce que l'amour du Christ ne vérifie pas au fond de chacun de nos cœurs notre amour? Du pape, comme et plus de tout chrétien, et d'autant plus qu'il est éveilleur de l'Église pour la multitude, eh bien du pape, comme de tout chrétien, est exigé cette espèce de mariage, cette conjonction vivante de la foi et de la charité. comme dira saint Pierre et saint Paul. Saint Paul le dit si bien. Dans le Christ, seul compte la foi qui agit par la charité. Toute séparation de la foi et de la charité peut être destructrice de l'une et de l'autre. En tout cas, ça les anémie, ça les rend bien faibles, ça les rend malades. Une foi malade, une charité malade, c'est qu'elles sont séparées. Quand elles sont ensemble, elles grandissent. Et Pierre est le fondateur de l'Église sur la foi et la charité. Pierre est le témoin absolu de la foi essentielle. Pierre symbolise la fidélité et l'intégrité. Et saint Paul, lui, il symbolise le dynamisme puis l'universalité de notre Église, du christianisme. On comprend que l'Église, dans sa liturgie, ne les sépare pas, ni le 29 juin, ni le 18 novembre, comme aujourd'hui. C'est pour affirmer les dimensions indispensables, indissociables aussi, de la foi et de l'Église elle-même. Ils sont les deux maîtres de l'Église, ces gens, ces hommes extraordinaires. L'un, l'inébranlable solidité qui va se manifester dans la continuité de la tradition des papes et des traditions apostoliques. Et l'autre, c'est l'élan intrépide, un élan de héros fantastique, qui est orienté sans rémission, sans arrêt vers toute l'humanité. Ce qu'il en a fait des voyages de saint Paul. Toujours en communion avec saint Pierre, qui est le centre et le signe de l'unité de l'Église. Car ce serait une erreur de poser Paul à Pierre. Pierre, c'est le roc fondateur. Paul n'invente pas une autre Église. Non. C'est la même que celle des saints de Jérusalem, il le dit dans l'Épître aux Romains. Au Corinthiens qui se prétendent le parti du Christ, vous savez, les habitants de Corinthe, ils se prétendent le parti du Christ. Ils sont assez contestataires. Saint Paul dit dans l'épître, premier épître aux Corinthiens, qu'ils sont gonflés d'orgueil. Il rappelle à ces gens-là qu'il leur envoie Timothée pour leur rappeler justement la règle de conduite pour toutes les églises. Lui, il n'accepte pas qu'il y ait des autonomies qui brisent l'unité du corps mystique. Il ne croit pas à ça, lui, la séparation de l'Église en petits morceaux. Une Église ici, sur le coin de la rue, une autre sur l'autre coin de la rue, puis un autre coin, puis des Églises séparées comme ça. Si nous avons au sein de l'Église catholique des Églises séparées, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, des églises russes catholiques, coptes catholiques, arméniennes catholiques, etc., elles ne sont pas séparées, elles sont unies, mais c'est les traditions qui les font différer, les costumes, certains saints, la liturgie, les ordres religieux. Mais il y a une unité fondamentale qui est établie sur Saint-Pierre et Saint-Paul. Si Paul résiste à Pierre à un moment donné, en face, c'est parce qu'il était blâmable. Saint Paul en parle dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Parce qu'il était blâmable d'obéir à certains juifs légalistes, des espèces d'intégristes. Et c'est en les regardant, lui, Jacques et Jean, comme les colonnes de l'Église qu'ils s'opposent. Et Paul a d'ailleurs reçu le baptême d'eau à Jérusalem. Oh, sans doute à la différence des apôtres qu'on ne présente pas comme des baptiseuses, aussi curieux. Et saint Paul, est-ce qu'il n'est pas monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et rester 15 jours avec lui? Puis après ces 3 années d'Arabie, là, il est allé évangéliser en Arabie. Il n'y avait pas de musulmans dans ce temps-là, évidemment. Les musulmans n'apparaissent qu'au 7e siècle. C'était au lendemain de l'apparition de Jésus qu'il persécutait dans les chrétiens à Damas. Et puis, il voulait pas courir en vain, mais il dit, je veux parcourir le monde dans la communion. Il ne veut pas de séparation. Bref, on peut dire que Pierre et Paul sont bien l'un et l'autre à l'origine de la même Église. Église qui est l'Église de la foi et de la mission, c'est-à-dire de transmettre la foi. Pourquoi la transmettre? Pas pour assommer les autres, pas pour ajouter des chiffres, pas pour dire on est étant, on est temps, on est temps, pas du tout. C'est pour transmettre le Christ vivant, le bonheur. Si je fais ces émissions-là, c'est pas pour rien d'autre, moi, et pour essayer de donner un peu de bonheur à ceux qui en manquent peut-être, de transmettre le bonheur dont je voudrais moi-même vivre davantage. Et avec l'aide de ce que l'Église nous enseigne dans tant de livres, d'abord les évangiles et tout ça, eh bien de transmettre la joie, la paix, le bonheur. Je fais ça bénévolement, tout simplement pour ça, pour aucune autre raison. Et c'est ça la mission, être missionnaire. Quand je vois les missionnaires partir à l'étranger, je me sens tout petit. Quel courage! Transmettre la foi à garder, puis à transmettre une foi qui est à garder d'abord, puis à transmettre ensuite, ou en simultanément. Puis la mission, c'est la mission de maintenir la foi pour la répandre. Et si chacun a son charisme spécifique, Saint-Pierre, Saint-Paul et tous ceux qui le ressemblent, hommes et femmes, mais tous deux servent l'unique Seigneur, dans son Église qui est indivisible, elle est une, et c'est surtout Pierre, ça. Dans cette Église qui est catholique, c'est-à-dire universelle, et ça c'est surtout Paul, Saint-Paul. Ils sont unis, ces deux grands hommes, dans une seule fête liturgique. Ou dans deux fêtes liturgiques. Comme ils ont été unis, frères, dans le martyr, qui est l'ultime témoignage de leur foi. L'un crucifié, je vous le rappelle, la tête en bas parce qu'il ne voulait pas être crucifié, la tête en haut comme son maître. Il ne s'en trouvait pas digne. Et Saint Paul qui a eu la tête tranchée à Rome. Si l'Église a le dépôt de la foi, c'est pour sa transmission à tous. C'est pour ça qu'elle a le dépôt de la foi. C'est pas pour le garder comme ça, sur des tablettes. C'est pour le transmettre avec flamme, avec feu, avec enthousiasme, avec passion, avec amour. Le refus de la fidélité, puis le refus de la mission, c'est une énorme trahison à celui, Jésus, qui est toute vérité et toute vie et tout amour, qui est le seul maître, qui est le seul sauveur. Il faut être fidèle à Jésus. Il faut vouloir de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, de tout son esprit. Il faut vouloir protéger. Pager son enseignement, c'est la clé. C'est la clé du bonheur vrai. Il n'y a pas d'autre bonheur dans la vie que de transmettre à ses enfants la joie de la foi. Ce soir, je suis appelé à faire un premier pas pour devenir le parrain de mon petit-fils pour sa confirmation. C'est une grande joie pour moi de transmettre ma foi à mon petit-fils qui sera confirmé samedi à Sainte-Colette. J'ai grand hâte. J'espère, avec l'aide de vos prières, d'y parvenir. Je voudrais vous signaler, de crainte de l'oublier, un excellent livre qui vient de paraître chez Pygmalion, intitulé tout simplement Saint Paul, par Gérard Leclerc. J'ai eu la chance de connaître Gérard Leclerc et je l'apprécie beaucoup. Il est éditorialiste à la revue France catholique à Paris. Il a collaboré au Figaro, il a écrit deux ouvrages retentissants il n'y a pas longtemps, Jean-Paul II, Le Résistant, et Pourquoi veut-on tuer l'Église? Et cette fois-ci, son Saint-Paul paru au mois de mai chez Pygmalion, est vraiment un livre extrêmement intéressant où il est question de la grande pensée de Saint-Paul et de sa vie. Ça se lit comme un roman. Pour ceux qui ont moins de moyens, parce que le livre doit coûter quelques sous, c'est plus de 100 francs, il y en a un qui a été publié et qui se vend 7 ou 10 dollars, et que l'on retrouve encore chez CMD, le distributeur CMD. C'est « Sois mon témoin avec Saint-Paul » par le père Pierre Dumoulin. Excellent bouquin. Pierre Dumoulin, c'est un prêtre du diocèse de Monaco, qui est né en 61. Et il a une façon d'écrire qui est surprenante. Je vous lis le début de son livre. « Tu veux devenir missionnaire? Bien, c'est possible. Commence par rentrer chez toi, par rentrer en toi. Tu portes des terres immenses à évangéliser. Tu te dis croyant? Es-tu crédible? Chacun de tes actes, Chacune de tes pensées, tes désirs, tes paroles, sont-ils ceux du Christ? Tout échappe. Pour te donner, il faut d'abord t'appartenir. Il faut évangéliser ton âme et tu évangéliseras le monde. Deviens ce que tu veux donner. Paix, joie, amour, attention aux autres. Vis ce que tu crois et tu le transmettras. Pour porter la lumière, il faut devenir feu. Moi qui t'écris, j'arpente les steppes de l'Asie centrale, loin, très loin, aux frontières de la Chine et de la Mongolie. J'ai traversé des fleuves gelés et des déserts torrides. Mais ce n'est pas cela la mission, la vraie. Les véritables missionnaires sont les aventuriers de l'âme. Ils sont cachés autour de toi, sur un lit d'hôpital, sur le banc d'une église ou dans un monastère. Ils ont fait de leur âme un feu rayonnant. Et nul ne les connaît. Mais ce sont eux qui réchauffent le monde. Lorsque je pars seul ou loin, ce sont eux qui éclairent les cœurs sur ma route. Je vous rappelle le nom, c'est le père Pierre Dumoulin. C'est un livre extraordinaire, je vous l'assure. Pierre Dumoulin. Le titre « Sois mon témoin » avec saint Paul. C'est distribué... Dites à votre libraire que c'est distribué par CM, comme dans Montréal, D. CMD. C'est le distributeur. Dans la même collection, on trouve l'enfance spirituelle de Thérèse l'Enfant Jésus par Monseigneur Gilles Barthes. Magnifique petit volume. C'est toute une collection. Il y en a des douzaines de volumes qui se vendent une dizaine de dollars. C'est pour rien. C'est gratuit. Et n'oubliez pas celui de Gérard Leclerc, Saint-Paul, chez Pygmalion. Dans la fête de Saint-Paul, l'Église fait précéder l'Évangile des déclarations de Pierre, de l'épître de la mission de Paul. Paul dit, « Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. » C'est un homme qui veut répondre à cette parole du Christ toujours, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » C'est toujours cette passion qui l'habite, ce désir. Il est dévoré, saint Paul, par ce désir. Saint Paul est tendre, comme une mère, puis il est violent pourtant. Oui, les marques du Christ, il les reçoit. Des coups de fouet. Il a été lapidé, il a été jeté en prison, il a subi des naufrages, des jeûnes. Il a été blessé de l'écharpe de la chair, comme il dit. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on soupçonne. Il donne non seulement l'Évangile, mais il donne sa vie. Il va jusqu'au bout, saint Paul. C'est un converti. C'est un juif qui persécutait les chrétiens et qui a été converti par une apparition. Vous direz, voyons, une apparition. C'est un problème psychologique. Un problème psychologique ne suscite pas de grands saints comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Ça ne peut être qu'une véritable apparition qui a fondu en lui, dans son cœur. Et le Christ a transformé son cœur au complet. Autrement, on rêve quand on met ça sur le dos de la psychanalyse et de la psychologie. Son cœur devient passionné. Il est dévoré par le feu de l'amour jusqu'à ce qu'il appelle... ce qu'il appelle la divine jalousie. Il craint pas les larmes et les affrontements pour le Christ, lui. Saint Paul, c'est le ministre de Jésus, comme d'autres, et parlant en insensé plus qu'eux, dit-il. Il se gêne pas pour parler en insensé, ménage pas ses paroles. Il se considère d'ailleurs comme la balayure du monde, mais déjà ressuscité. C'est un personnage si riche de contrastes. Il est à l'exemple de Jésus, de son Seigneur, qu'il vit avec une égale loyauté les béatitudes de la douceur et de la persécution, de la paix et des pleurs. Il est le premier théologien du Sauveur et du Salut, jusqu'à l'expérience mystique et jusqu'à la fin des temps. Oh, saint Paul, je l'aime. Il est devenu celui qu'on appelle l'apôtre avec un tel amour de Jésus qu'il crie et écrit... Qu'il soit anathème celui qui n'aime pas le Seigneur. Il peut pas comprendre qu'on n'aime pas le Seigneur. Jésus est digne de tout notre amour. Quiconque refuse d'aimer Jésus, il ne comprend pas ça. C'est de la même écriture qu'il avoue, à cause de lui, oui, à cause de lui, j'ai tout sacrifié. Et je regarde toutes choses comme de la fiente. Un certain prêtre qu'on entend à la télévision, qui nous vient de France, hein, l'abbé Guy Gilbert dirait, je regarde toutes choses comme de la merde, afin de gagner le Christ avec la justice qui vient de la foi. Il a un amour passionné, un amour dévorant, un amour total. Il ne pense qu'à aimer. Il a écrit des choses si sublimes. Oh, laquelle devrais-je vous lire? J'ai le goût de vous lire ceci. Je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence, et vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude même de Dieu, à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Oh, à lui la gloire, dans l'Église et dans le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Si vous recherchez cette belle prière, elle est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, au verset 14 et suivant.